Et, du moine ou de l'église, on peut se demander lequel fut le mieux édifié. En tout cas, il se chargea de nourrir cet homme de bonne volonté qui d'abord reçut avec gratitude cette marque de charité, puis, s'apercevant que le vieux religieux lui préparait des mets délicats, refusa poliment et prit le parti d'aller mendier son pain comme un vrai fils de dame pauvreté. On n'aimait guère les mendiants, mais par acquis de conscience, certains lui donnaient souvent n'importe quoi, des restes fort peu appétissants. François recevait tout avec de grands merci. Mais un jour, regardant ce qu'on lui avait jeté dans son écuelle, il crut qu'il allait vomir. La nature n'était pas encore domptée. Il prit bravement sur lui et mangea. La récompense vint aussitôt. À peine avait-il sur la langue cette immonde nourriture qu'elle lui parut délicieuse. À San Damiano, cependant, les curieux s'arrêtaient pour voir ce laborieux personnage qui chantait tout seul en mettant des pierres en place. Ils appartenaient à cette race d'hommes que rien n'intéresse comme devoir travailler le prochain. Mais le prochain en question ne l'entendait pas de cette oreille. Et avec cette gentillesse qui n'était qu'à lui, il invitait en français les oisifs à offrir au Seigneur un petit effort manuel. Les uns riaient et passaient. D'autres, reconnaissant avec stupeur dans ce maçon à la fois pieux et jovial l'élégant libertin de jadis, se sentaient pris d'émotion comme devant un mystère et lui venaient en aide. On a dit qu'il réussit même à former une équipe de travailleurs volontaires, mais c'est faire un large crédit à la générosité humaine. Bientôt, les murs se relevèrent. C'était au début de septembre 1206 qu'il s'était mis au travail, et lorsqu'il eut fini, il se crut en règle avec Dieu de ce côté-là. En réalité, tout restait à faire. Naturellement, il devait continuer son œuvre de raccommodeur d'église en ruine. Avec un instinct de castor, il irait là où les murs menaceraient de s'écrouler. D'abord San Pietro, une chapelle près d'une des propriétés de son père dans la plaine d'Assise, où, jeune homme, il allait bien souvent chercher le frais dans les heures jaunes de l'été, et que nous pouvons situer grâce au testament de son neveu. Et le petit chemin qui conduisait à la chapelle menait dans l'autre sens à San Damiano, comme si les jours heureux de sa jeunesse étaient là, mis entre parenthèses par ces deux églises. Puis il y aurait la portioncule. Mais la première, San Damiano, et la troisième, la portioncule, devaient chacune jouer un rôle déterminant dans sa grande aventure humaine. À la maison, suite. Bien différente était l'atmosphère chez Bernardone et qui rageait dans son cœur du matin au soir, tantôt dans un sombre silence, tantôt se libérant dans de brusques accès d'indignation. Avoir recouvré son argent représentait une maigre consolation dans le désastre familial. Son fils, en qui il plaçait tant d'espoir, était devenu un objet de scandale, la risée de toute la ville. Plus irritant que tout le reste, cet apitoiement de quelques bonnes âmes, et pour mettre le comble à l'exaspération du drapier, ces murmures qui commençaient à courir sur les vertus de ce garnement, de ce vieux garnement, car François n'était pas autre chose. À 25 ans bien sonnés, il se conduisait comme un gamin qui a perdu la tête. Son jeune frère Angelo voyait la situation avec plus de calme et beaucoup d'ironie. Il était goguenard. Pour lui, François demeurait l'hurluberlu de la famille, le fêtard prétendu converti qui jouait maintenant au saint. Aussi se réservait-il, un jour qu'il le croiserait dans la rue ou ailleurs, de lui décocher une petite flèche bien acérée pour crever cette baudruche. Rien de bien méchant en apparence, une petite phrase innocente.